un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
La cocaïne, on le sait, est un stupéfiant très dangereux et interdit par la loi. Son commerce est très souvent entaché de violence, mais il s'apparente aussi par bien des aspects à un business comme un autre, qui obéit à la loi du marché, délocalise, exploite des travailleurs précaires et, comme certains secteurs porteurs, connaît une croissance exponentielle et des profits afférents concentrés entre les mains d'une petite poignée de grands trafiquants. En France, explique l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, les saisies de cocaïne reflètent un changement d'échelle dans la diffusion du produit. Après une moyenne de 11 tonnes dans les années 2011-2020, elles ont atteint en 2022 le niveau record de 27,7 tonnes. Sofiane raconte aujourd'hui à Olivia Muller comment il est devenu un de ces grands dealers, par sa taille, car il est très grand, mais aussi par celle du marché, qu'il a peu à peu couvert, avec son business lucratif, mais non sans risque, pour lui-même et les consommateurs.
Je m'appelle Sofiane, j'ai 38 ans, j'ai grandi en Normandie. J'ai eu une enfance très heureuse et joyeuse avec mes parents. Je suis l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Mon papa a toujours travaillé, faire en sorte qu'on ne manque de rien. Ma mère également. Ma mère était mère au foyer et mon père était conducteur de bus. J'étais très timide, vu que j'ai toujours été... Je suis assez grand, très grande taille, plus de 2 mètres. J'aimais bien l'école étant très jeune, primaire, collège, très gentil élève, mais j'étais pas le premier de la classe. Moi, en fait, j'aimais juste faire l'intéressant, faire rire la galerie, faire rire les professeurs. J'ai passé mon bac 2 fois, que j'ai raté 2 fois. Et au lycée, donc à ma 2e année de terminale, c'est là où j'ai commencé mes premiers pas dans, on va dire, le trafic de stupes. Mais c'était, histoire de dire, moi aussi, je fais. J'étais avec des amis qui, à l'époque, faisaient un peu ça, mais pour avoir un peu d'argent de poche. Mon premier client, on va l'appeler comme ça, c'était quelqu'un qui fumait et qui, pour consommer gratuitement, on va dire, vendait de son côté des barrettes de shit dans son quartier. Il faisait partir environ 1 kilo par semaine. J'avais que lui comme client qui me suffisait largement pour être à l'aise tout le mois et pouvoir mettre un peu d'argent de côté. La chance que j'ai eue avec ce client venait de la campagne. Les gens de la campagne, à l'époque, on se permettait de leur faire plus cher qu'en ville parce qu'ils n'avaient pas disponibilité eux, donc c'est la loi de l'offre et la demande, ils en ont moins, donc ils payent un peu plus cher. Et moi, je lui ramenais jusqu'à sa campagne, donc je prenais des risques en plus. J'avais pas le permis, j'empruntais les voitures de mes amis, j'allais sur la campagne avec mon petit son de Renault, à l'époque j'étais fan de Renault, et je mettais mon petit son de Renault et je prenais la route. Manu, Mistral gagnant, tout le répertoire de Renault, je kiffe. Avec ce premier client, à l'époque, je prenais environ entre 1500 et 2000 euros par mois. J'avais 18 ans. Et bah donc, on y prend goût, on prend plaisir, voilà. On aime l'argent, on prend goût aussi, le goût du risque. On commence à être fiers de nous. Après ma 2e année de terminale, où j'ai raté mon bac une 2e fois, à mon retour des vacances d'été, n'ayant pas d'école, je m'ennuyais. Donc j'ai décidé d'aller tenter un peu l'aventure, voir à Paris comment ça se passait, vu que j'avais de la famille qui vit là-bas. De là, je me dis, je vis chez ma tante, faudrait quand même que je travaille et que je recommence une vie normale. J'ai pu trouver un emploi assez rapidement d'agent immobilier. C'était à Levallois, tout ce qui est Levallois, Courbevoie, Asnières, tout ce côté-là des Hauts-de-Seine. Je voyais des gens très riches à l'époque, qui me voyaient, qui me considéraient, qui me prenaient pour quelqu'un. Je commence à me faire des nouveaux amis qui sont d'abord collègues, après on sympathise ensemble. Donc, dès qu'on faisait une vente, on allait fêter ça dans les grands restaurants de Paris. Et petit à petit, donc, je me rends compte au fur et à mesure de ces soirées que bon, bah, ça consomme un peu de shit. Je me propose... en fait, c'est même pas... C'est eux qui me disent, est-ce que je peux pas avoir quelque chose, une fois, je sais pas, pour dépanner. Je savais que j'avais quelqu'un de très très proche qui était déjà dans le milieu du stup. Ça arrange tout le monde. Eux, ça leur facilite pour pécho. Moi, ça me fait un peu d'argent de poche facilement parce que c'est mes collègues. Ils me disent de vive voix le soir avant qu'on quitte le travail, ramène-moi tant demain. Je ramène le lendemain ce qu'il veut. Voilà, il n'y a pas de... Je risquais quasiment rien. Donc, sur une plaquette, oui, je faisais déjà de la marge. Vous vous doutez bien qu'on prend pas de risque. On fait pas du bénévolat, hein. J'allais pas prendre une plaquette et la revendre le même prix que l'acheter. Donc, oui, je faisais déjà une petite marge sympa. Une plaquette, c'est 100 grammes. 250 euros, donc ce qui nous fait à 2,5 euros le gramme. On est d'accord. La barrette, le 10 grammes, on le faisait à l'époque à 70-60 euros. Donc, 10 grammes, 60 euros, ce qui fait 6 euros le gramme. Donc ça nous fait une marge de 3,50 euros, sachant que le 10 grammes, on ne met pas vraiment 10 grammes, on va dire on mettait 9 grammes. Donc c'est là où vous faites le bénéfice. Donc si vous faites 100 grammes, 9 grammes, vous faites donc 11 blocs à 60 euros, ça fait 60 euros fois 11, 660. Donc bon, au final, on fait même 300. Ça c'est quand vraiment vous faites des blocs. Donc bah, au final, c'est le bouche à oreille, c'est comme tout, hein, comme tout commerce, hein. Il suffit juste d'avoir du bon produit, d'être sérieux, d'être réglo. Et quand on fait ça, bah oui, il faut être souriant, il faut être aimable, être un bon commercial. Il faut mettre le client à l'aise. Je commence à avoir de quoi faire un peu de shopping. Lors du midi, j'allais aux Galeries Lafayette. J'ai acheté un costard Boss, enfin voilà, une paire de baskets, on va dire Dior. Donc oui, donc je commençais à kiffer. Ouais. Donc comme je vous disais, donc dès qu'il y avait des collègues qui faisaient des belles ventes, on allait fêter ça dans les beaux endroits de Paris, souvent en club de striptease, Hustler, Pink Paradise à l'époque, etc. Et là, c'est là où je commençais à voir les collègues. C'était plus du shit que je voyais, mais c'était, voilà, je voyais qu'il y avait un peu de cocaïne qui tournait, etc. Donc, au bout d'un moment, je leur ai dit que je pouvais avoir ça aussi. Puis là, c'est pareil, un client, deux clients, bouche à oreille, etc. Après quelques mois de non-résultats dans l'immobilier, aucune vente, le patron, il m'a dit, je peux pas continuer comme ça avec toi, tu me coûtes trop d'argent, je vois que tu veux pas plus te donner que ça, donc on s'est séparé gentiment, à l'amiable. Je faisais un peu ma vie. Je faisais pas des millions, mais je faisais mon argent, on va dire mon chiffre d'affaires augmentait un peu plus en plus, donc c'est satisfaisant de voir ça. Je commençais à faire ce que je voulais un peu, quand je voulais, j'allais dépenser beaucoup d'argent le soir en boîte, donc j'ai commencé à avoir une petite clientèle, c'est bon, sérieuse, carrée. Donc je me suis fait des potes dans la ville où j'étais. Et après, c'est là où ça a pris un peu plus d'ampleur. Alors dans mon équipe, on aimait bien rigoler. On kiffait se charrier, Il y avait tout, il y avait le petit gros, il y avait le grand, il y avait le fou, le petit gros, c'était un fin gourmet, ouais, il avait... Dès qu'on s'ennuyait, il fallait qu'on aille manger, les rendez-vous qu'on avait avec des gens, c'était au resto. Des fois, on appelait des gens, ouais, tu sais pas, il y a un beau resto, tu sais pas, au truc, voilà. On était le guide Michelin de Paris. Le fou, parce que c'est celui, comment dire, c'était les bras, c'était, voilà, non, on était tous très gentils, donc très gentils avec les très gentils, malheureusement, des fois, il fallait être méchant avec les méchants, pas de violence gratuite, jamais, on n'était pas des haggards, donc on s'en prenait jamais aux plus faibles, on n'avait pas, au contraire. Dans ce milieu, si quelqu'un tenterait de voler quelqu'un, je pense que ça peut aller jusqu'au kidnapping, séquestration, et malheureusement des fois jusqu'au meurtre. Avec le temps, assez rapidement, donc je rencontre un nouveau pote, on va dire, coup de foudre amical. Lui faisait aussi de son côté du stup, lui tout seul. Et lui, c'est une plus grande échelle que moi, il avait déjà fait son nom. Lui, il faisait déjà du semi-gros, il faisait tout. Quelqu'un qui fait du gros, c'est quelqu'un qui fait en kilos. Semi-gros, ça va être en centaines de grammes, plus petite quantité, semi-gros. Et après, le détail, c'est gramme par gramme, 10 grammes. Enfin voilà, il avait sa petite puce qui tournait bien aussi. La puce, en fait, c'est le répertoire clientèle. Parce que c'est avec le détail qu'on fait le plus de bénéf. Plus vous rendez gros, moins la marge est grande. Plus le temps passe, plus on devient limite comme des frères. Ce qui me permet de l'avoir quand je veux, la quantité qu'il me faut, à des prix de touche. Mais j'étais l'un des rares avec qui il ne faisait pas de bénéfice sur moi, donc voilà. Là, ça grossit. Lui, il commençait déjà à connaître un peu des stars, des gens de la télé, comme les réalisateurs, les producteurs, ceux qu'on voit pas à l'écran, quoi, tout ce milieu-là. On avait tout type de clientèle, clients qui consommaient donc la cocaïne. Il y en avait, c'était vraiment festif. J'en avais un, c'était un taxi. Dès qu'il finissait sa journée de travail, il allait sous la douche, qui vivait avec sa femme et ses enfants. Il prenait son rail de coke, il prenait un gramme, il prenait une bouteille de vodka cul sec, il prenait sa douche, il allait dormir. Il y avait tout, des serveurs, des agents immobiliers, DJ, avocats, beaucoup d'avocats, une communauté homosexuelle dans le Marais, quasiment tout le Marais, j'avais les transsexuels brésiliens, leur soirée dépendait de moi. On tente des trucs, t'en prends... Je crois que c'était le mec qui prend 5 boulettes, il y en a une gratuite. Ça, c'est un truc après on a installé. Ça, c'est la base, fidéliser les clients. C'est du commerce, hein. Du coup, vu que j'ai plus de clients, ça sonne plus, donc ça débite plus. Je fais ça donc pendant quelques temps tout seul, à me faire... vous n'avez plus de vie, hein, c'est du lundi au dimanche. Livrer lui à droite, lui à gauche... Récupérer le produit, s'enfermer, faire les pochons, relancer les clients en leur disant salut, si tu veux passer de bonnes soirées, je suis là, dispo, appelle-moi quand tu veux. Tout seul. Et c'est après, j'avais trop de clients, je pouvais plus assumer tout seul, donc j'ai commencé par prendre un livreur. Et donc voilà, donc moi je faisais mes clients connus. Le plus que j'ai eu, c'est 3 livreurs. Le livreur, il y avait aussi un standardiste, parce que les livreurs, eux, c'est... Le client, il n'est pas en lien avec eux direct. Si le livreur se fait attraper par la police, il n'a pas de téléphone client sur lui, il n'a rien du tout, donc il avait toujours une petite quantité de boulettes bien cachées, et comme ça, ça pouvait être tranquille. Tous les jours, il y avait des gens qui venaient, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire bosser? Parce que les plus jeunes voient votre train de vie, voient machin, plus jeunes ou pas d'ailleurs, hein, les mecs, quasiment tous les jours, il y a quelqu'un qui vient voir, qui vous dit, s'il te plaît, aide-moi à lancer une puce, est-ce que tu cherches un livreur, et voilà. Donc les critères qu'il fallait, c'était juste, faut que le livreur soit un minimum présentable, qu'il ait un scooter, un deux roues, ou sinon, je lui en achetais un, et il me remboursait avec le temps, être disponible, être ponctuel, il fallait juste qu'il soit présentable, si je l'envoie dans le 6e ou dans le 7e, un mec en scooter habillé en survêt, ça pouvait plus attirer l'œil de la police que si le mec était toujours habillé bien propre, jean, petite veste. Il fallait se fondre la ramasse un maximum.
Vous leur achetez des vêtements?
Non, voilà, je suis pas. Je suis pas leur maman non plus. Ils avaient un salaire pour ça. Non, après, c'est vrai de. Non. Mais après, je les conseillais. Mais ça plutôt comme ça. C'est plus, même pour toi, c'est plus frais que de t'habiller en je sais pas quoi. Les livreurs étaient rémunérés, on va dire, par... ils prenaient une commission par boulette livrée. Chaque boulette livrée prenait 10 euros dessus. Son essence était payée, sa bouffe était payée. Pas ticket restaurant, mais il avait un budget quotidien pour l'essence et pour manger. Non, il n'y avait pas de virement. Il n'y avait pas de cotisation, tout ça. Reste en cache. En cache, ouais. Franchement, non, ils faisaient leur pour environ 4000 euros par mois. Bah après, quand vous gérez entre guillemets des livreurs, bah vous avez les problèmes du quotidien comme n'importe quelle entreprise avec ses salariés. Il y a celui qui a des problèmes avec sa copine, c'est lui qui a son pneu qui est crevé, son scooter à la fourrière, rendez-vous chez le dentiste, il veut pas, il est pas bien. Enfin voilà, il faut gérer ça aussi, il faut tout en restant calme. C'est pour ça que c'est pas de l'argent si facile que ça. Donc chez Elivore, oui, il y avait beaucoup, ça pouvait arriver qu'il y ait des démissions comme des licenciements. Par exemple, si un livreur, je m'apercevais qu'il essayait de me dérailler un client. Donc quand je me rendais compte de ça, grâce à l'aide des fois des clients, bah, c'était licenciement pour faute lourde, net et immédiate. Ça fonctionne comme une entreprise. Tous les mois, bah, on sait plus ou moins ce qu'on a fait partir en quantité. Donc le but, c'était toujours de faire plus que le mois d'avant, mais pas faire moins. Là, c'était, je vous compte en grammes, c'était autour de 600-700 grammes par mois, au détail. Donc ça fait, on va dire 600 grammes, 600 boulettes, tu rajoutes 40, ça fait 700. Mais après, vous devenez bon en calcul mental avec le temps. Donc à l'époque, mon bénéfice tournait autour d'entre 15-20 000 euros par mois. Par contre, j'avais un gros chiffre d'affaires, donc il fallait déduire l'investissement de la cocaïne, le salaire de mes livreurs, les faux frais. Alors en chiffre d'affaires, ça fait environ autour de 70 000 euros par mois. Certes, je vendais de la cocaïne, c'était le moyen de gagner ma vie. Oui, je le promouvais quand j'envoyais mes messages à mes clients pour leur dire que j'ai un nouveau produit qui c'est de la bombe. Mais consommer de la cocaïne, ça ne m'a jamais intéressé ni de près, ni de loin, ni le geste. Juste le geste, déjà, je trouve très réducteur, déjà. J'ai aidé les gens à passer des bonnes soirées, mais moi, je passais de très bonnes soirées sans ça. Et du coup, bah, on cherche tous à faire plus gros, plus grand. Bah, chercher à se développer, c'est ne plus toucher la coke à un prix du marché comme tout le monde, c'est de l'avoir à un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire l'avoir au prix de la source là-bas, au prix qui coûte sur place en Amérique latine, puis si vous rajoutez les frais de vol, etc., les gens qui ont payé entre-temps, ça voilà. Il y a des gens que je connais qui vivent sur place en Amérique latine et qui sont, bah, eux, narcotrafiquants qui... sa clientèle, c'est plus des personnes physiques, c'est déjà limite des pays, en fait. Le Maroc, la France, la Hollande, partout par où ça peut rentrer. Alors, ça dure 3 ans. 3 ans de livraison qui se passait très bien avec les livreurs, jusqu'à ce que la police mette fin à tout ça. Et il s'est passé que j'ai mon ami qui faisait un plus gros sampleur, en gros, comme je vous dis, en semi-gros. Lui, de par ses connaissances, de par son activité qui est plus conséquente que la mienne, de grossiste, donc là, oui, il avait un très gros réseau, pas qu'en France, mais implanté un peu partout en Europe, en Amérique latine, en Afrique du Nord, Dubaï. C'est mon meilleur pote, oui, ce qu'on appelle une grosse tête, c'est une grosse figure du trafic de stupéfiants, oui, de cocaïne. Donc les stupides étaient à fond sur nos côtes, ne sachant pas comment nous attraper. Ils nous ont mis entre les pattes, par le biais d'un indic, hein, un bagagiste. Une personne en or pour pouvoir faire sortir surtout de la coke d'aéroport. Et du coup, bah, c'est de là de tout part. Donc la police, grâce à l'aide de l'indic, nous fait présenter ce bagagiste. Et à partir de là, bah, on se dit, bah, ça y est, jackpot. Ça va être le coup qui va nous faire prendre la retraite plus tôt que prévu. Plus d'une tonne qui devait venir par plusieurs voyages. Une tonne de cocaïne. Ouais. C'est énorme. Donc non, moi, je n'étais pas instigateur de l'importation elle-même. Cette affaire, voilà, je la suis de loin parce que j'allais en profiter de loin aussi. Le jour de mon arrestation, moi, j'étais seul de mes amis qui n'avaient jamais encore fait de prison. Ils me disaient tous, tu vas manger ta part de gâteau. Tu vois. Je leur disais, non, je suis trop fort, moi. Je suis un Kazaoui, je suis trop fort. Un Kazaoui, c'est ma ville du Maroc. Et bah, cette affaire avec l'infiltré, là, le jour où la drogue est arrivée d'Amérique latine à l'aéroport, le bagagiste infiltré l'a sorti de l'aéroport pour la donner à mon pote dans un endroit pour faire l'échange, une valise de cocaïne. Moi, j'étais dans un appartement chez moi, avec posé. J'avais passé une belle soirée la veille, etc. J'avais deux copines qui venaient de partir. Je regardais la rediffusion des Anges, je me rappelle, la télé-réalité. Et lors de la transac avec mon pote, à 16h et quelques, vous devez récupérer la valise. Il y avait un go où tous les complices, en simultané, ont dû se faire arrêter. Ah oui, je me souviens, j'entends sonner, je regarde à l'œilleton, je vois que c'est une jeune femme. Moi, je venais de me réveiller depuis pas longtemps, j'étais en boxeur, tout ça, donc j'entends go, ça casse la porte, ça rentre, bouge pas, nanana, ça me met par terre, ça me menotte, etc. Et ils ont retourné là-bas, c'était pas chez moi, c'était chez une amie chez qui je sous-louais. Et c'était marrant parce que cette amie travaillait dans le monde de la nuit au Luxembourg, elle n'était jamais en France. Et pendant la perquisition, donc je suis dans le salon avec un policier, et dans la chambre, les autres pièces, il y a d'autres policiers qui fouillent, et d'un coup, il y a un policier qui m'appelle, qui me dit « Ouais, viens voir et tout ». Et je vois par terre, il m'a posé 30 godes, une trentaine de godes de toutes les tailles et tout. Là. J'arrive, il me dit « Ah, tu t'amuses bien, petit coquin ?» J'ai dit, mais foutez de ma gueule, ça sort d'où ça? Il me dit, c'était dans le plan. En fait, ma pote, elle avait tout ça, je savais même pas, j'avais jamais une trentaine. Et donc, arrestation, ils sont venus. Vous êtes. Les policiers sont vifs avec vous, ça veut dire qu'ils savaient ce qu'on mangeait, ils savaient quelles filles on allait voir, même les côtés matchs qu'on faisait, ils savaient ce qu'on jouait, ils ont même dit que des fois ils jouaient. En nous écoutant, ils allaient jouer comme nous, ils perdaient, c'était dégoûté. Ils savent tout ce qu'on fait. On était plusieurs dans l'affaire, on était neuf. Là, c'était une grosse affaire. Ouais, le jugement a duré deux semaines, le jugement. Je l'ai bien... C'est bizarre, hein, mais... La garde à vue, vu que j'étais avec mes potes, je rigolais. C'est quand je suis arrivé ma première nuit en prison, là vous dites... ah ouais, quand même. J'étais à Fleury-Mérogis. Directement dans la grande cour. Non, ouais, je pense qu'à mes parents, personne d'autre, mes parents, ma copine de l'époque, je me dis, voilà, c'est tout. Mais surtout ma mère, c'est la seule personne, voilà, c'est ma mère. Elle est venue, ma mère, j'avais interdit, mais elle est venue me voir avec mes sœurs, mon frère, tout, sauf mon père, pas en colère, triste, de la peine, triste. Moi, j'ai fait même pas 3 mois. Oui. Il m'a dit, je lui dis, mon avocat, il a posé une requête. Donc après, j'ai stoppé, j'ai préféré me mettre un peu au vert. Je suis rentré un peu chez me faire oublier en Normandie. Mais par contre, le procès vient en 2020, 4 ans après. Vient le jour du procès, c'est un procès qui se déroule en 2 semaines. On est 9 prévenus à se faire juger. Il y a des gros avocats, des amis à moi qui ont pris les gros ténors du barreau. Je vous cache pas qu'on s'attendait tous à prendre de grosses peines. Nous, notre équipe, on n'est pas trop du genre à stresser, malgré les conséquences. Et donc le procès, on était tous détendus, on était tous souriants, tous. Et au final, on a écopé de peines qui sont moins lourdes que ce qu'on avait prévu de prendre, grâce aux policiers qui ont fait du mauvais travail, qui étaient excités sur l'affaire, donc qui ont fait beaucoup d'erreurs. La police, ils ont essayé de nous attraper, ils ont par des moyens normaux, ils n'ont pas réussi. Donc c'est là où ils ont mis le bagagiste. C'est ce qu'on appelle une incitation. Au procès, donc, j'ai été blanchi pour le trafic international. Et du coup, j'ai seulement écopé d'un an de prison ferme pour mon trafic de stup sur Paris. Mon ami, lui, a écopé d'une peine de 6 ans. Lui, moi, on s'attendait à ce qu'il prenne au moins 10-12 ans. À l'issue de ce procès, oui, j'ai arrêté ce trafic pour ma mère, parce que il me reste plus qu'elle, j'ai plus mon papa. Il est décédé récemment, un peu plus d'un an. Et j'ai un autre petit frère qui est actuellement incarcéré pour aussi un gros trafic, même délire que le mien à peu près. du coup, pour le bien-être de ma maman, sa santé mentale et physique et tout ce qui s'ensuit, j'ai décidé d'avoir une vie plus paisible et pour elle et pour moi et pour qu'elle soit plus fière de moi. Du coup, je suis entre la France et le Maroc. C'est pas la même retraite que j'avais pensé à l'époque des valises de cocaïne, mais celle-là, c'est pas plus mal, au moins. Elle est plus tranquille psychologiquement. Une des sources de retraite que j'envisage et qui commence à payer, à fructifier, c'est j'ai un terrain d'olivier au Maroc et pour l'instant, on va s'occuper du zitzitoun. À défaut d'être un grossiste de cocaïne, j'espère être un grossiste d'huile d'olive. It's too dark, just the passing cars in the renate room, and it's harder every time I see you, and then when you leave, I'm wondering when we'd be too soon, but you ain't mine.
C'était le business model d'un trafiquant de stup, un reportage d'Olivia Muller réalisé par Anne Depelchin. Merci à Sofiane, bien sûr, ainsi qu'à Maître Tarek Koraitem et à Maître Lucas Minkowski. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi. My hands in my pockets while we can. Let's just stop. Already have my own problems. I'm not trying to get sainted. I don't need to be good. I'm just trying to stay blameless. Go home to her while you still can. It's much too late now for drafting a your woman's got an honest man. I always thought, so don't do nothing that will make me take it back. I've seen our better natures flashing like a pair of flipping coins, and I know it's getting late. I can see exactly what's been running through your mind, and I don't pretend it's easy. I like it less than you. It's been a long time lonely. I've got less to lose, but here's a chance to do right. This is the stuff of real life. Let's just let this one slide. Say our goodbye. Go home to her while you still can. It's much too late.